Le moine. Chapitre 10. Uniquement occupé de livrer à la justice les assassins de sa sœur, Lorenzo ne se doutait guère de tout ce que ses intérêts souffraient d'un autre côté. Il ne revint à Madrid que le soir du jour où Antonia avait été enterrée. Signifier au grand inquisiteur l'ordre du cardinal duc, formalité indispensable lorsqu'il s'agissait d'arrêter publiquement un membre de l'Église, communiquer son sujet à son oncle et à Don Ramirez, et assembler une troupe suffisante pour prévenir toute résistance, c'était de quoi l'occuper pleinement pendant le peu d'heures qui lui restait jusqu'à minuit. Il n'eut donc pas le temps de savoir des nouvelles de sa maîtresse, et il ignorait complètement la mort de la mère et de la fille. Le marquis n'était nullement hors de danger, son délire avait cessé, mais il lui restait un tel épuisement que les médecins évitaient de se prononcer sur ce qui pouvait en résulter. Quant à Raymond lui-même, son souhait le plus ardent était de rejoindre Agnès au tombeau. Il espérait apprendre au même instant qu'Agnès était vengée et lui-même perdu sans retour. Suivi des vœux les plus fervents de Raymond, Lorenzo était à la porte de Sainte-Claire, une grande heure avant le temps indiqué par la mère Sainte-Ursule. Il était accompagné de son oncle, de Don Ramirez de Mello et d'une troupe d'archers choisis. Les nonnes étaient occupées à accomplir les cérémonies instituées en l'honneur de Sainte-Claire et auxquelles jamais aucun profane n'était admis. Les fenêtres de la chapelle étaient illuminées. Du dehors, on entendait l'orgue accompagné d'un chœur de femme enfler sa voix grave et pleine dans le silence de la nuit. Le chœur s'éteignit et fut remplacé par un solo mélodieux chanté par celle qui devait remplir dans la procession le rôle de Sainte-Claire. Pour cet emploi, on choisissait toujours la plus belle fille de Madrid, et celle sur qui la préférence tombait la regardait comme l'honneur le plus insigne. Attentif à la musique, dont les sons dans l'éloignement ne semblaient que plus doux, l'auditoire était absorbé dans une profonde attention. Un silence général régnait dans la foule, et tous les cœurs étaient remplis de respect pour la religion. Tous, excepté celui de Lorenzo, sachant que parmi celles qui chantaient avec tant de douceur les louanges de leur Dieu, il en était qui, sous le manteau de la dévotion, cachaient les crimes les plus noirs. Leurs hymnes ne lui inspiraient que de l'horreur pour leur hypocrisie. Il avait depuis longtemps observé avec blâme et mépris la superstition qui dominait les habitants de Madrid. Son bon sens lui avait indiqué les artifices des moines et l'absurdité grossière de leurs miracles, de leurs légendes et de leurs reliques supposées. Il rougissait de voir ses compatriotes dupes d'une déception si ridicule et ne souhaitait qu'une occasion de les affranchir des entraves où les tenaient les moines. Cette occasion, si longtemps et si vivement désirée, s'offrait enfin à lui. Il résolut de ne pas la laisser échapper, mais d'exposer aux yeux du peuple un tableau effrayant de l'énormité des abus qui se commettaient fréquemment dans les monastères, et de l'injustice qu'il y avait à honorer indistinctement tous ceux qui portaient un habit religieux. Il lui tardait de démasquer les hypocrites et de prouver à ses compatriotes qu'un saint extérieur ne cache pas toujours un cœur vertueux. Le service dura jusqu'à minuit. Lorsque l'horloge du couvent se fit entendre, la musique cessa, les voix expirèrent, et bientôt les lumières disparurent des fenêtres de la chapelle. Le couvent des Capucins n'était séparé de celui de Sainte-Claire que par le jardin et le cimetière. Les moines avaient été invités au pèlerinage. Ils arrivèrent, marchant deux à deux, des torches allumées à la main et chantant des hymnes en l'honneur de Sainte-Claire. Le père Pablos était à leur tête, le prieur s'étant excusé d'y aller. Le peuple fit place au saint cortège, et les moines se mirent en rang de chaque côté de l'entrée. Peu de minutes suffirent pour disposer la procession en ordre, après quoi les portes du couvent s'ouvrirent et de nouveau le chœur des femmes retentit à pleine voix. D'abord parut une troupe de chantres. Dès qu'ils eurent passé, les moines se mirent en marche deux par deux et suivirent à pas lents et mesurés. Puis vinrent les novices. Ils ne portaient point de cierge comme les professes, mais ils s'avançaient les yeux baissés et semblaient occupés à dire leur chapelet. À ceci succéda une jeune et charmante fille qui représentait Sainte Lucie. Elle tenait un bassin d'or dans lequel étaient deux yeux. Les siens étaient couverts d'un bandeau de velours et elle était conduite par une autre nonne dans le costume d'un ange. Elle était suivie de Sainte Catherine, une palme dans une main et une épée flamboyante dans l'autre. Celle-ci était vêtue de blanc et son front était orné d'un diadème étincelant. Après parut Sainte Geneviève, entourée de quantités de diablotins, qui, prenant des attitudes grotesques, la tirant par sa robe et jouant autour d'elle avec des gestes bouffons, tâchaient de distraire son attention du livre où ses yeux étaient constamment fixés. Ces joyeux démons amusaient fort les spectateurs, qui témoignaient leur plaisir par de fréquents éclats de rire. L'abbesse avait eu soin de choisir une nonne dont l'humeur fut naturellement sérieuse et grave. Elle eut lieu d'être satisfaite de son choix. Les singeries des diablotins ne produisaient pas le moindre effet, et Sainte Geneviève s'avançait sans déranger un seul des muscles de sa face. Chacune des saintes était séparée de l'autre par une troupe de chanteuses, célébrant ses louanges dans leur hymne, mais la déclarant bien inférieure à Sainte Claire, patronne spéciale du couvent. Après elle parut une longue file de nonnes, portant, comme les chanteuses, chacune un cierge allumé. Puis vinrent les reliques de Sainte Claire, enfermées dans des vases également précieux par la matière et par le travail. Mais elles n'attirèrent pas l'attention de Lorenzo. La nonne qui portait le cœur l'occupa entièrement. D'après la description de Théodore, il ne douta point que ce ne fût la mère Sainte Ursule. Elle avait l'air de regarder autour d'elle avec anxiété. Comme il était en avant de la haie, devant laquelle passait la procession, elle l'aperçut. Un mouvement de joie colora sa joue, jusqu'alors très pâle. Elle se tourna vivement vers sa compagne. « Nous sommes sauvés », l'entendit-il dire tout bas. « Voilà son frère. » Le cœur maintenant à l'aise, Lorenzo regarda avec tranquillité le reste de la cérémonie. Il en vit paraître le plus bel ornement. C'était une espèce de trône enrichi de pierreries et éblouissant de lumière. Il roulait sur des roues cachées et était mené par de jolis enfants, habillés en séraphins. Le haut en était couvert de nuées d'argent, sur lesquelles reposait la plus belle personne qu'on eût jamais vue. C'était la jeune fille qui représentait Sainte Claire. Ses vêtements étaient d'un prix inestimable, et autour de sa tête une couronne de diamants formait une auréole artificielle. Mais tous ses ornements cédaient à l'éclat de ses yeux. À mesure qu'elle avançait, un murmure de contentement courait dans la foule. Lorenzo lui-même reconnut en secret qu'il n'avait jamais vu de beauté plus parfaite. Et si son cœur n'avait appartenu à Antonia, il l'aurait offert en sacrifice à cette fille enchanteresse. Mais dans l'état où était son cœur, il ne la considéra que comme une belle statue. Elle n'obtint pas de lui d'autre tribut qu'une froide admiration, et quand elle eut passé, il n'y pensa plus.
« Qui est-elle ? »
demanda un des voisins de Lorenzo. « C'est une beauté que vous avez dû entendre vanter souvent. Son nom est Virginie de Villafranca. Elle est pensionnaire du couvent de Sainte-Claire, parente de l'abbesse, et on l'a choisie avec raison comme l'ornement de la procession. » Le trône était suivi de l'abbesse elle-même. Elle marchait à la tête du reste des nonnes d'un air dévot et recueilli, et fermait la procession. Elle s'avançait lentement, ses yeux étaient levés au ciel, son visage, calme et tranquille, semblait étranger à toutes les choses de ce monde, et aucun de ses traits ne trahissait l'orgueil secret qu'elle avait d'étaler la pompe et l'opulence de son couvent. Elle passa, accompagnée des prières et des bénédictions de la populace. Mais quelles furent la surprise et la confusion générale quand Don Ramirez, sortant de la foule, la réclama comme sa prisonnière. Un instant, la supérieure resta muette et immobile de stupéfaction. Mais elle ne se fut pas plutôt remise qu'elle cria au sacrilège, à l'impiété, et invita le peuple à sauver une fille de l'église. Les assistants s'empressaient d'obéir, lorsque Don Ramirez, protégé par sa troupe contre leur fureur, leur commanda de s'arrêter, les menaçant des plus rigoureuses vengeances de l'Inquisition. À ce nom redouté, tous les bras tombèrent, toutes les épées rentrèrent dans le fourreau. L'abbesse elle-même devint pâle et trembla. Le silence général lui prouva qu'elle n'avait d'espoir que dans son innocence, et d'une voix défaillante, elle pria Don Ramirez de lui apprendre le crime dont elle était accusée. « Vous le saurez en temps et en lieu, » répondit-il. « Mais d'abord, je dois m'assurer de la mère Sainte-Ursule. »«
De la mère Sainte-Ursule ?»
répéta faiblement l'abbesse. En ce moment, elle jeta les yeux autour d'elle et vit Lorenzo et le duc qui avaient suivi Don Ramirez.
« Ah, grand Dieu !» cria-t-elle en frappant des mains d'un air frénétique. « Je suis trahi !»«
Trahi ?» répliqua Sainte-Ursule, qui arrivait, conduite par des archers et suivie de la nonne, sa compagne dans la procession.
« Non pas trahi, mais découverte. Reconnaissez en moi votre accusatrice. Vous ne savez pas comme je suis au fait de votre crime. »«
Seigneur, » continua-t-elle, se tournant vers Ramirez,
« je me remets moi-même entre vos mains. J'accuse l'abbesse de Sainte-Claire d'assassinat, et je réponds sur ma vie de la justice de l'accusation. »
Un cri de surprise fut poussé par tous les assistants, et on demanda de tous côtés une explication. Les nonnes craintives, épouvantées du désordre et du bruit, s'étaient dispersées et enfuies par divers chemins. Les unes avaient regagné le couvent, d'autres s'étaient réfugiées chez leurs parents. Et plusieurs, ne songeant qu'au danger présent, et qu'à échapper au tumulte, courait par les rues, errant sans savoir où. La charmante Virginie avait été une des premières à fuir. Afin de mieux voir et de mieux entendre, le peuple demanda que Sainte-Ursule parlât du haut du trône vacant. La nonne obéit. Elle monta sur le char splendide et s'adressa, en ces termes, à la multitude qui l'entourait.
« Quelque étrange et méséante que puisse paraître ma conduite de femme et de religieuse, la nécessité la justifiera pleinement. Un secret, un horrible secret, pèse de tout son poids sur mon âme. Je n'aurai pas de repos que je ne l'ai révélé au monde, et que je n'ai apaisé le sang innocent qui crie vengeance du tombeau. J'ai eu beaucoup à oser pour me procurer cette occasion de soulager ma conscience. Si j'avais échoué dans ma tentative de dévoiler ce crime, si la supérieure avait eu soupçon que ce mystère me fût connu, ma perte était inévitable. Les anges qui veillent incessamment sur ceux qui méritent leur faveur ont empêché que je ne fusse découverte. Il m'est permis à présent de faire un récit dont les détails glaceront d'horreur toute âme honnête. C'est mon devoir de déchirer le voile de l'hypocrisie et de montrer aux parents abusés le danger auquel est exposée la femme qui tombe sous l'empire d'un tyran monastique. Parmi les religieuses de Sainte-Claire, nulle n'était plus aimable, nulle n'était plus douce qu'Agnès de Médina. Je la connaissais bien, elle me confiait tous les secrets de son cœur. J'étais son amie, sa confidente, je l'aimais d'une affection sincère, et je n'étais pas la seule qui lui fût attachée. Sa piété vraie, son empressement à obliger ses dispositions angéliques faisait d'elle la favorite de tout ce qu'il y avait d'estimable dans le couvent. L'abbesse elle-même, fière, soupçonneuse et malveillante, ne pouvait refuser à Agnès le tribut d'approbation qu'elle n'accordait à personne d'autre. Nous avons tous des défauts, hélas. Agnès avait ses faiblesses. Elle viola les lois de son ordre et encourut la haine invétérée de l'implacable supérieur. Les règles de Sainte-Claire sont sévères, mais surannées et négligées, plusieurs depuis de longues années sont tombées dans l'oubli, ou ont été remplacés d'un commun accord par des plus douces punitions. La peine attachée au crime d'Agnès était la plus cruelle, la plus inhumaine. Cette loi depuis longtemps était désapprouvée. Hélas, elle existait pourtant, et la vindicative abbesse résolut de la faire revivre. Cette loi ordonnait que la coupable serait plongée dans un cachot particulier, destiné expressément à cacher pour toujours au monde la victime de la cruauté et la tyrannie superstitieuse. Dans cette redoutable demeure, elle était condamnée à un isolement perpétuel, privée de toute société, et crue morte par ceux que l'affection aurait pu pousser à tenter de la sauver. C'est ainsi qu'elle devait languir le reste de ses jours, sans autre nourriture que du pain et de l'eau, et sans autre consolation que la liberté de verser ses larmes. L'indignation soulevée par cette révélation fut si violente qu'elle interrompit pour quelques moments le récit de Sainte Ursule. Quand le désordre eut cessé et que le silence régna de nouveau dans l'assemblée, elle continua son discours pendant lequel, à chaque mot, le visage de la supérieure trahissait une terreur croissante. On convoqua en conseil les 12 nonnes les plus âgées. J'étais du nombre. L'abbesse peignit de couleurs exagérées la faute d'Agnès et ne se fit pas scrupule de proposer la remise en vigueur de cette loi tombée en désuétude. Il faut le dire, à la honte de notre sexe, soit que la volonté de la supérieure fût souveraine dans le couvent, soit que de vivre sans avenir dans la solitude et les privations leur endurcit le cœur et leur aigrit le caractère, cette proposition barbare fut approuvée par 9 voix sur 12. Je n'étais pas une des 9. J'avais eu de fréquentes occasions de me convaincre des vertus d'Agnès, et je l'aimais et la plaignais profondément. Les mères Berthe et Cornélie se joignirent à moi. Nous fîmes la plus forte opposition possible, et la supérieure se vit obligée de changer de plan. Quoiqu'elle eût pour elle la majorité, elle craignit de rompre ouvertement avec nous. Elle savait qu'appuyée par la famille Médina, nous serions de trop redoutables adversaires. Et elle savait aussi que sa perte serait certaine si Agnès, après avoir été emprisonnée et supposée morte, venait à être découverte. Elle renonça donc à son dessein, quoique avec beaucoup de répugnance. Elle demanda quelques jours pour songer à un genre de punition qui pût être approuvé de toute la communauté, et elle promit de convoquer le même conseil dès qu'elle aurait pris une résolution. 2 jours se passèrent. Le soir du 3e, on annonça qu'Agnès serait interrogée le lendemain et que, suivant sa conduite en cette occasion, sa peine serait augmentée ou mitigée. La nuit qui précéda l'interrogatoire, je me glissai dans la cellule d'Agnès à l'heure où je supposais les autres religieuses ensevelies dans le sommeil. Je la consolai de mon mieux, je lui dis de prendre courage, de compter sur l'appui de ses amis, et je convins avec elle de certains signes par lesquels je pourrais l'avertir de répondre affirmativement ou négativement aux questions de la supérieure. Sachant que son ennemi chercherait à la troubler, à l'embarrasser et à l'intimider, je craignais qu'on ne lui surprît quelque aveu préjudiciable à ses intérêts. Comme je tenais à ce que ma visite fût secrète, je ne restais que peu de temps avec Agnès. Je l'engageai à ne pas se laisser abattre. Je mêlai mes larmes à celles qui coulaient sur sa joue. Je l'embrassai tendrement, et j'étais sur le point de me retirer quand j'entendis des pas qui s'avançaient vers la cellule. Je reculai. Un rideau qui voilait un grand crucifix m'offrit une retraite, et je me hâtai de me mettre derrière. La porte s'ouvrit. L'abbesse entra, suivie de 4 autres nonnes. Elles s'approchèrent du lit d'Agnès. La supérieure lui reprocha ses erreurs dans les termes les plus amers, lui dit qu'elle était un déshonneur pour le couvent, qu'il fallait délivrer la terre d'un tel monstre, et lui commanda de boire le contenu du gobelet que lui présentait une des nonnes. Soupçonnant les funestes propriétés de cette liqueur et tremblante de se voir au bord de l'éternité, la malheureuse fille s'efforça d'exciter la pitié de la supérieure par les prières les plus touchantes. Elle demanda la vie dans des termes qui auraient attendri le cœur d'un démon. Elle promit de se soumettre patiemment à toutes les punitions, à l'opprobre, à l'emprisonnement et à la torture, pourvu qu'on la laissât vivre. Oh, seulement 1 mois de vie, ou 1 semaine, ou 1 jour. Son impitoyable ennemi écouta ses plaintes sans être ému. Elle lui dit que, d'abord, elle avait eu l'intention de lui faire grâce de la vie, et que si elle avait changé d'idée, c'était l'opposition de ses amis qui en était cause. Elle continua d'insister pour qu'Agnès avalât le poison, l'invitant à ne plus se recommander qu'à la miséricorde de Dieu, et l'assurant que, dans 1 heure, elle serait au nombre des morts. Voyant qu'il était inutile d'implorer cette femme insensible, Agnès essaya de se jeter hors du lit et d'appeler au secours. Elle espérait, si elle ne pouvait pas échapper au sort dont on la menaçait, avoir au moins des témoins de la violence qu'on commettait sur elle. L'abbesse devina son dessein. Elle la saisit avec force par le bras et la rejeta sur son oreiller. En même temps, tirant un poignard et lui mettant sur le sein, elle affirma que, si Agnès poussait un seul cri ou hésitait un seul moment à boire le poison, elle lui percerait le cœur sur le champ. Déjà à demi morte de peur, l'infortunée ne put résister davantage. La nonne s'approcha avec le fatal gobelet. L'abbesse la força de le prendre et d'en avaler le contenu. Elle but, et l'acte horrible fut accompli. Les nonnes alors s'assirent autour du lit. Elles répondirent à ses gémissements par des reproches. Elles interrompirent par des sarcasmes les prières dans lesquelles elles recommandaient à la miséricorde divine son âme prête à partir. Elles la menacèrent de la vengeance du ciel et de la damnation éternelle, lui dirent de désespérer du pardon, et jonchèrent d'épines encore plus aiguës l'oreiller douloureux de la mort. Telles furent les souffrances de cette jeune infortunée, jusqu'au moment où la destinée la délivra de la malice de ses bourreaux. Elle expira entre l'horreur du passé et la crainte de l'avenir, et son agonie dut amplement assouvir la haine et la vengeance de ses ennemis. Aussitôt que leur victime eut cessé de respirer, l'abbesse se retira et fut suivie de ses complices. Ce fut alors que je sortis de ma cachette. Je n'avais pas osé secourir ma malheureuse amie, sachant bien que, sans la sauver, je n'aurais fait qu'attirer sur moi le même sort. Interdite et terrifiée au-delà de toute expression par cette scène affreuse, j'avais à peine la force de regagner ma cellule. Quand j'eus atteint la porte de celle d'Agnès, je me hasardai à jeter un regard vers le lit où était étendu, inanimé, ce corps naguère si plein de grâce et de charme. Je dis une prière pour le repos de son âme, et fis vœu de venger sa mort par la honte et le châtiment de ses assassins. Après bien des peines et des dangers, j'ai tenu mon serment. Égaré par l'excès de ma douleur, il m'échappa à l'enterrement des paroles imprudentes qui alarmèrent la conscience coupable de l'abbesse. Toutes mes actions furent observées, tous mes pas furent suivis. Je fus constamment entouré des espions de la supérieure. Il se passa longtemps avant que je pusse trouver le moyen de donner avis de mon secret aux parents de la malheureuse fille. On avait répandu le bruit qu'elle était morte subitement. Cette version fut crue par tous ses amis, non seulement dans Madrid, mais encore dans l'intérieur du couvent. Le poison n'avait point laissé de traces sur son corps. Personne ne soupçonnait la véritable cause de sa mort, et cette cause resta inconnue à tout le monde, excepté à ses assassins et à moi. Je n'ai plus rien à dire. Quant à ce que j'ai dit, j'en réponds sur ma vie. Je répète que l'abbesse est une meurtrière, qu'elle a ôté du monde et peut-être du ciel une infortunée dont la faute était légère et pardonnable, qu'elle a abusé du pouvoir confié à ses mains et qu'elle a agi en tyran, en barbare, en hypocrite. J'accuse aussi les quatre nonnes, Violente, Camille, Alix et Marianne, comme ses complices et également criminelles. Ici, Saint Ursule termina son récit. Il avait excité de tous côtés l'horreur et la surprise. Mais quand elle raconta le meurtre inhumain d'Agnès, l'indignation de la foule se manifesta si bruyamment qu'il fut à peine possible d'entendre la fin du discours. Le désordre croissait d'instant en instant. Enfin, une multitude de voix s'écrièrent qu'il fallait qu'on livre l'abbesse à la fureur. Don Ramirez refusa positivement d'y consentir. Lorenzo lui-même rappela au peuple qu'elle n'avait subi aucun jugement et l'engagea à laisser à l'Inquisition le soin de la punir. Toutes les représentations furent superflues, le trouble devenait plus violent et la populace plus exaspérée. En vain, Ramirez essaya d'emmener sa prisonnière hors de la foule. De quelque côté qu'il se tourna, un attroupement lui barrait le passage et réclamait l'abbesse à grands cris. Ramirez ordonna aux archers de s'ouvrir un chemin. Pressé par la foule, il leur fut impossible de tirer l'épée. Il menaça la multitude de la vengeance et de l'inquisition. Mais, dans cet instant de frénésie populaire, ce nom redouté lui-même avait perdu son effet. Quoique le regret de la mort de sa sœur lui inspirât une profonde horreur pour l'abbesse, Lorenzo ne put s'empêcher d'avoir pitié d'une femme dans cette position terrible. Mais en dépit de tous ses efforts et de ceux du duc, de Don Ramirez et des archers, le peuple continua de pousser en avant. Il se fraya un passage à travers les gardes qui protégeaient la victime. il l'arracha de cet asile et se mit en devoir d'en tirer une prompte et cruelle justice. Éperdue de terreur, et sachant à peine ce qu'elle disait, la malheureuse femme criait, implorant un moment de répit. Elle protestait qu'elle était innocente de la mort d'Agnès et qu'elle pouvait se laver de tout soupçon jusqu'à la plus entière évidence. Les mutins, tout entiers au désir d'assouvir leur vengeance barbare, refusèrent de l'écouter, lui prodiguèrent tous les genres d'insultes, l'accablèrent de boue et d'ordures et l'appelèrent des noms les plus odieux. Ils se l'arrachèrent les uns aux autres et chaque nouveau bourreau était plus atroce que le précédent. Ils étouffèrent sous leurs hurlements et leurs imprécations ses cris suppliants et la traînèrent par les rues en la frappant, en la foulant du pied, en la soumettant à tous les actes de cruauté que peuvent inventer la haine et la fureur vindicative. Enfin, un caillou, lancé par une main adroite, la frappa en plein à la tempe. Elle tomba par terre, baignée dans son sang, et, en peu de minutes, termina sa misérable existence. Quoiqu'elle ne sentît plus leurs insultes, les mutins continuèrent d'exercer sur son corps inanimé leur rage impuissante, de la battre, de la fouler aux pieds et de sévir contre lui jusqu'à ce qu'il devint une masse de chair informe, hideuse et dégoûtante. Hors d'état d'empêcher ces actes révoltants, Lorenzo et ses amis les avaient vus avec la plus grande horreur. Mais ils furent tirés de leur inaction, forcés par la nouvelle que l'on attaquait le couvent de Sainte-Claire. La populace échauffée, confondant l'innocent avec le coupable, avait résolu de sacrifier à sa rage toutes les religieuses de cet ordre et de ne pas laisser de leur maison une pierre sur l'autre. Alarmés à ce récit, ils coururent au couvent décidés à le défendre s'il était possible, ou du moins à en sauver les habitantes de la furie des mutins. La plupart des nonnes avaient pris la fuite, mais quelques-unes étaient restées. Leur situation était vraiment dangereuse. Cependant, grâce à la précaution qu'elles avaient prise de barricader les portes intérieures, Lorenzo espéra contenir le peuple jusqu'à ce que Don Ramirez revînt avec des forces suffisantes. Entraîné par les premiers désordres, à plusieurs rues de distance du couvent, il n'y parvint pas tout de suite. Quand il y arriva, la foule alentour était si considérable qu'il ne put approcher des portes. La populace, cependant, assiégeait le bâtiment avec rage et persévérance. Elle battait les murs en brèche, jetait aux fenêtres des torches enflammées et jurait qu'au point du jour pas une nonne Sainte-Claire ne serait en vie. Lorenzo venait précisément de réussir à se frayer un chemin à travers la foule lorsqu'une des portes fut forcée. Les mutins se répandirent dans l'intérieur du bâtiment où ils exercèrent leur vengeance sur tout ce qui se trouva sur le passage. Ils mirent en pièces le mobilier, déchirèrent les tableaux, détruisirent les reliques et par haine de la servante, perdirent tout respect pour la sainte. Les uns s'occupaient à chercher les nonnes, d'autres à démolir des parties du couvent, et d'autres à mettre le feu aux tableaux et aux riches mobiliers qu'ils contenaient. Ces derniers produisirent le plus réel dégât. En effet, les conséquences de leur action furent plus soudaines qu'eux-mêmes ne l'avaient attendu ou désiré. Les flammes qui s'élevaient de ces monceaux en feu atteignirent un côté du bâtiment qui était vieux et sec, et l'incendie gagna rapidement de chambre en chambre. Les murs furent bientôt ébranlés par l'élément dévorant. Les colonnes cédèrent, le toit tomba sur les mutins et en écrasa plusieurs sous ses débris. On n'entendait que des cris et des gémissements. Le couvent était enveloppé de flammes et le tout présentait une scène de dévastation et d'horreur. Lorenzo était désolé d'avoir été la cause, quoique innocente, de cet effrayant désordre. Il entreprit de réparer sa faute en protégeant les malheureuses habitantes du couvent. Il pénétra avec les assaillants et s'efforça de réprimer leur fureur victorieuse jusqu'à ce que le progrès soudain et alarmant des flammes l'obligeât à songer à sa propre sûreté. Le peuple se précipita dehors avec autant de violence qu'il en avait mis à entrer. Mais ces flots s'engorgeant aux issues et le feu gagnant rapidement, beaucoup périrent avant d'avoir le temps de s'échapper. La bonne fortune de Lorenzo le conduisit à une petite porte, dans une galerie retirée de la chapelle. Le verrou en avait été retiré. Il l'ouvrit et se trouva au pied des caveaux de Sainte-Claire. Il s'arrêta pour respirer. Le duc et quelques hommes de sa suite l'avaient accompagné et se trouvaient ainsi en sûreté pour le présent. ils tinrent conseil sur ce qu'ils avaient à faire pour s'échapper de cette confusion. Mais leur délibération fut fréquemment interrompue par la vue des masses de feu qui sortaient des murs épais du couvent, par le bruit des voûtes pesantes qui tombaient en débris, ou par les cris confus des nonnes et des assaillants, ou étouffés dans la foule, ou périssant dans les flammes, ou écrasés sous le poids du bâtiment qui s'écroulait. Lorenzo demanda où le guichet conduisait. On répondit au jardin des Capucins, et il fut résolu qu'on chercherait une issue de ce côté. Le duc, en conséquence, leva le loquet et passa dans le cimetière attenant. Les gardes le suivirent pêle-mêle. Lorenzo, qui se trouvait le dernier, allait aussi quitter la colonnade lorsqu'il vit la porte des caveaux s'ouvrir doucement. Quelqu'un regarda au dehors, mais en apercevant des étrangers, poussa un cri perçant, recula et descendit précipitamment l'escalier de marbre.
« Que veut dire cela ? » s'écria Lorenzo. « Il y a là-dessous quelque mystère. Suivez-moi sans délai. »
À ces mots, il s'élança dans le caveau et poursuivit la personne qui continuait de fuir devant lui. Le duc ne savait pas la cause de cette exclamation, mais lui supposant de bonnes raisons, il le suivit sans hésiter. Les autres firent de même et toute la troupe arriva bientôt au bas des degrés. La porte d'en haut étant restée ouverte, les flammes voisines jetaient assez de lumière pour permettre à Lorenzo d'entrevoir la personne qui courait par les longs passages et sous les voûtes éloignées. Mais à un détour, tout à coup, ce secours lui manqua. Il resta plongé dans les ténèbres et ne put distinguer l'objet de leur poursuite qu'au faible son des pas du fugitif. Ils furent donc forcés d'avancer avec précaution. Autant qu'ils pouvaient juger, le fugitif aussi paraissait avoir ralenti sa course, car ils entendaient ses pas se suivre à de longs intervalles. À la fin, ils s'égarèrent dans ce labyrinthe de galeries et se dispersèrent dans diverses directions. Emportés par l'ardeur d'éclaircir ce mystère et poussés par un mouvement secret et inexplicable, Lorenzo ne remarqua cette circonstance que lorsqu'il se trouva dans un isolement complet. Le bruit des pas avait cessé. Tout était silencieux. Et il n'avait aucun fil pour se guider vers la personne qui fuyait. Il s'arrêta pour réfléchir sur le moyen le plus propre à faciliter sa poursuite. Il était persuadé que ce n'était point un motif ordinaire qui pouvait le conduire dans ce lieu lugubre à une pareille heure. Le cri qu'il avait entendu lui avait paru un cri de terreur, et il était convaincu que cet événement cachait un mystère. Après plusieurs minutes d'hésitation, il continua de marcher à tâtons le long des murs. Il y avait déjà quelque temps qu'il avançait ainsi lentement lorsqu'il aperçut une lueur qui brillait à distance. Guidé par elle et tirant l'épée, il dirigea ses pas vers l'endroit d'où la lumière paraissait sortir. Elle venait d'une lampe qui brûlait devant la statue de Sainte-Claire. Devant se tenaient plusieurs femmes. Leurs vêtements blancs flottaient, agités par le vent qui grondait sous les voûtes. Curieux de savoir ce qui les avait rassemblés dans ce lieu de tristesse, Lorenzo s'approcha avec circonspection. Les étrangères avaient l'air d'être engagées dans une conversation fort animée. Elles n'entendirent pas Lorenzo, et il avança assez près pour entendre distinctement leur voix.
« Je vous jure, » continua celle qui parlait quand il arriva et que les autres écoutaient avec une grande attention, « je vous jure que je les ai vus de mes yeux. J'ai vite descendu l'escalier, ils m'ont poursuivi, et j'ai eu bien de la peine à éviter de tomber dans leurs mains. Sans la lampe, je ne vous aurais jamais trouvé. »
« Et que viennent-ils faire ici ? »
dit une autre d'une voix tremblante.
« Croyez-vous qu'ils nous cherchent ? » ?»« Dieu veuille que mes craintes soient fausses, » répliqua la première. « Mais je présume que ce sont des assassins. S'ils nous découvrent, nous sommes perdus. Quant à moi, mon sort est certain. Ma parenté avec l'abbesse sera un crime suffisant pour me condamner. Et quoique, jusqu'à présent, ces caveaux m'aient été une retraite. »
Comme elle parlait, son œil, en se levant, rencontra Lorenzo, qui n'avait pas cessé d'avancer doucement.
« Les assassins » cria-t-elle.
Elle s'élança du piédestal de la statue où elle était assise et essaya de s'échapper. Ses compagnes, au même instant, jetèrent un cri d'effroi. Lorenzo avait saisi le bras de la fugitive. Épouvantée au désespoir, elle tomba à genoux devant lui.
« Épargnez-moi » s'écria-t-elle,
Pour l'amour du Christ, épargnez-moi. Je suis innocente en vérité, je le suis. »
Sa voix était presque étouffée par la frayeur. Les rayons de la lampe donnant en plein sur son visage, qui était sans voile, Lorenzo reconnut la belle Virginie de Villafranca. Il s'empressa de la relever et de la rassurer. Il lui promit de la protéger contre les assaillants, lui protesta qu'on ignorait où elle était cachée et qu'il la défendrait jusqu'à la dernière goutte de son sang. Pendant cette conversation, les nonnes avaient pris différentes attitudes. L'une était à genoux et invoquait le ciel, l'autre se cachait la figure dans le sein de sa voisine, plusieurs, immobiles de crainte, écoutaient l'assassin supposé, tandis que d'autres embrassaient la statue de Sainte-Claire et imploraient sa protection avec des cris frénétiques. Quand elles s'aperçurent de leur méprise, elles entourèrent Lorenzo et lui prodiguèrent les bénédictions par douzaines. Il apprit qu'en entendant les menaces du peuple et épouvanté des cruautés que, du haut des tours du couvent, elles avaient vu exercer contre la supérieure, plusieurs des pensionnaires et des nonnes s'étaient réfugiés dans les caveaux. Au nombre des premières était la charmante Virginie, proche parente de l'abbesse. Elle avait plus de raisons que tout autre de redouter les assaillants, et elle supplia Lorenzo de ne point l'abandonner à leur rage. Ses compagnes, dont la plupart étaient des filles de noble maison, lui firent la même prière, qu'il accueillit avec empressement. Il s'engagea à ne les point quitter, qu'il ne les ait eu remises, toutes saines et sauves, à leurs parents, mais il leur recommanda de ne point quitter encore les caveaux de quelque temps et d'attendre que la fureur populaire fût un peu calmée et que l'arrivée de la force militaire eût dispersé la multitude.
« Plût à Dieu, s'écria Virginie, que je fusse déjà en sûreté dans les bras de ma mère. Comment dites-vous, Seigneur, serons-nous longtemps avant de pouvoir sortir d'ici? Chaque moment que j'y passe me met à la torture. »
« Vous en sortirez bientôt, j'espère, » dit-il. « Mais, jusqu'à ce que vous puissiez le faire sans danger, ces caveaux seront pour vous un impénétrable asile. Vous n'y courez aucun risque, et je vous conseille de rester tranquille encore 2 ou 3 heures. »«
2 ou 3 heures ? » s'écria sœur Hélène. « Si j'y reste encore 1 heure, je mourrai de peur. Pour tout l'or du monde, je ne consentirai pas à subir ce que j'ai déjà souffert depuis que je suis ici. Sainte Vierge, être dans ce lieu lugubre au milieu de la nuit, environné des cadavres de mes compagnes défuntes, et m'attendant à tout instant à être mise en pièces par leur ombre qui rôde autour de moi et se plaignent et gémissent avec des accents funèbres qui me glacent le sang, Jésus-Christ, c'en est assez pour me rendre folle.
« Pardonnez-moi, repartit Lorenzo, si je m'étonne que, menacé des malheurs réels, vous puissiez vous occuper de dangers imaginaires. Les terreurs sont puériles et sans fondement. Combattez-les, sainte sœur. J'ai promis de vous protéger contre les assaillants, mais c'est à vous-même à vous défendre des attaques de la superstition. Croire aux revenants est ridicule, Alexée, et si vous continuez de céder à ces craintes chimériques...
« Chimériques !» s'écrièrent toutes les nonnes à la fois. « Mais nous l'avons entendu nous-mêmes, Seigneur. Chacune de nous l'a entendu. Cela s'est répété souvent, et chaque fois, le son était plus sombre et plus lugubre. » Vous ne nous persuaderez pas que nous nous sommes toutes trompées. Non, certes. Non, non, si le bruit n'avait existé que dans l'imagination. Écoutez, écoutez, interrompit Virginie, avec l'accent de la terreur. Dieu nous garde, le voilà encore.
Les nonnes joignirent les mains et tombèrent à genoux.
Lorenzo regarda avec inquiétude,
et tout près de céder aux craintes qui s'étaient emparées des femmes. Le silence était profond, et il examina le caveau, mais il ne vit rien. Il se disposait à parler aux nonnes et à les railler de leur puérile frayeur lorsque son attention fut éveillée par un sourd et long gémissement.
Qu'est-ce que cela ?
Cria-t-il étonné.
Voilà, Seigneur, dit Hélène. À présent, vous devez être convaincu. Vous avez entendu le bruit vous-même. Jugez si nos terreurs sont imaginaires. Depuis que nous sommes ici, ce gémissement s'est répété presque toutes les 5 minutes. C'est sans doute quelqu'un en peine qui réclame nos prières pour sortir du purgatoire, mais aucune de nous n'a osé lui demander ce qu'elle veut. Quant à moi, si je voyais une apparition, la frayeur, j'en suis certaine, me tuerait sur place. »
Comme elle parlait, on entendit un second gémissement, plus distinct.
Les nonnes firent le signe de la croix et s'empressèrent de réciter leurs prières contre les mauvais esprits. Lorenzo écouta attentivement. Il alla jusqu'à croire distinguer une voix qui parlait en se plaignant, mais l'éloignement en rendait les sons confus. Le bruit semblait venir du milieu du petit caveau où il était avec les nonnes et auquel une multitude de passages, qui y venaient aboutir de tous côtés, donnaient la forme d'une étoile. La curiosité de Lorenzo, toujours éveillée, le rendait impatient d'éclaircir ce mystère. Il demanda qu'on gardât le silence. Les nonnes obéirent. Tout se tut jusqu'à ce que le calme général fût de nouveau troublé par le même gémissement, qui se renouvela plusieurs fois de suite. Lorenzo, qui suivait la direction du son, remarqua qu'il était plus distinct auprès de la châsse de Sainte-Claire. « Le bruit part d'ici, » dit-il. « Quelle est cette statue ?» Hélène, à qui s'adressait cette question, resta un moment sans répondre. Tout à coup, elle joignit les mains. « Oui, » cria-t-elle, « cela doit être. Je sais d'où viennent ces gémissements. » Les nonnes l'entourèrent et la conjurèrent de s'expliquer. Elle répliqua gravement que, de temps immémorial, la statue avait la réputation d'opérer des miracles. Elle en inféra que la sainte était affligée de l'incendie du couvent qu'elle protégeait et qu'elle exprimait sa douleur par des lamentations distinctes. N'ayant pas la même foi dans les miracles de la sainte, Lorenzo ne trouva pas la solution du problème aussi satisfaisante qu'elle parut aux nonnes, qui l'acceptèrent sans balancer. Sur un point, il est vrai, il était d'accord avec Hélène. Il soupçonnait que les gémissements sortaient de la statue. Plus il écoutait, plus il se confirmait dans cette idée. Il s'en approcha dans le dessein de l'examiner plus attentivement, mais lorsqu'elles virent son intention, les nonnes le supplièrent au nom du ciel d'y renoncer, car, s'il touchait à la statue, sa mort était inévitable. « Et en quoi consiste le danger ? » dit-il. « Mère de Dieu, en quoi ? » répartit Hélène, toujours empressée de raconter une aventure miraculeuse. « Si vous aviez seulement entendu la centième partie des merveilleuses histoires que la supérieure nous racontait à ce sujet, elle nous a assuré maintes et maintes fois que si nous osions seulement y poser un doigt, nous courions les plus grands risques. Entre autres choses, elle nous a dit qu'un voleur, étant entré la nuit dans ses caveaux, remarqua le rubis qui est là et dont le prix est inestimable. Le voyez-vous, Seigneur ? Il brille au troisième doigt de la main dans laquelle elle tient une couronne d'épines. Naturellement, le bijou excita la cupidité de ce misérable. Il résolut de s'en emparer. Dans ce dessein, il monta sur le piédestal. Pour s'appuyer, il saisit le bras droit de la sainte et étendit le sien vers la bague. Quelle fut sa surprise lorsqu'il vit la statue lever sur lui une main menaçante et lui annoncer sa damnation éternelle. Pénétré d'effroi et de consternation, il se désista de sa tentative et se disposa à quitter le caveau. Mais cet espoir aussi fut déçu. La fuite lui fut interdite. Il lui fut impossible de dégager sa main qui était appuyée sur le bras droit de la sainte. Il eut beau faire des efforts, il resta attaché à la statue, jusqu'à ce que l'angoisse insupportable, qui lui versait du feu dans les veines, le força de crier au secours. Le caveau se remplit de spectateurs. Le scélérat avoua son sacrilège, et pour le délivrer, il fallut séparer sa main de son corps. Elle est restée depuis attachée à la statue. Le voleur se fit ermite et mena désormais une vie exemplaire. Mais l'arrêt de la sainte ne s'en est pas moins exécuté. Et la tradition dit qu'il continue de hanter ce caveau et d'implorer le pardon de Sainte-Claire par ses plaintes et ses lamentations. Maintenant j'y pense. Celle que nous venons d'entendre pourrait fort bien avoir été poussée par l'ombre de ce pécheur. Mais ceci, je ne le garantis pas. Tout ce que je puis dire, c'est que depuis lors, personne n'a osé toucher la statue. N'ayez donc pas cette folle témérité, bon seigneur. Pour l'amour du ciel, abandonnez ce dessein et ne vous exposez pas sans nécessité à une mort certaine. » N'étant pas convaincu que sa mort serait aussi certaine qu'Hélène paraissait le croire, Lorenzo persista dans sa résolution. Les nonnes s'efforcèrent de l'en détourner dans les termes les plus touchants et lui montrèrent même la main du voleur, qui, en effet, se voyait encore sur le bras de la statue. Cette preuve, s'imaginait-elle, devait le persuader. Il s'en fallait de beaucoup, et elles furent grandement scandalisées lorsqu'il manifesta le soupçon que ses doigts secs et ridés avaient été mis là par l'ordre de l'abbesse. En dépit de leurs prières et de leurs menaces, il approcha de la statue. Il sauta par-dessus la grille de fer qui la protégeait, et la sainte subit un examen minutieux. Elle lui avait paru d'abord être de pierre, mais une plus ample inspection lui prouva qu'elle n'était que de bois peint. Il la secoua et essaya de la remuer, mais elle avait l'air de faire partie de sa base. Il l'examina encore dans tous les sens, mais aucun fil ne le conduisit à la solution de ce mystère, solution dont les nonnes étaient devenues aussi avides que lui, depuis qu'elles l'avaient vu toucher impunément la statue. Il s'arrêta et écouta. Les gémissements se renouvelaient par intervalles. Il était convaincu d'en être le plus près possible. Il rêvait à ce singulier événement et parcourait la statue avec des yeux scrutateurs. Tout à coup, ils s'arrêtèrent sur la main desséchée. Il fut frappé de l'idée qu'une défense si particulière de toucher le bras de la statue n'avait pas été faite sans motif. Il remonta sur le piédestal. Il examina l'objet de son attention et découvrit un petit bouton de fer caché entre l'épaule de la sainte et ce que l'on supposait avoir été la main du voleur. Cette découverte le ravit. Il mit les doigts sur le bouton et le pressa avec force. Aussitôt, un bruit sourd se fit entendre dans la statue comme une chaîne tendue qui se détacherait. Effrayés de ce bruit, les timides nonnes reculèrent, se préparant à fuir à la première apparence de danger. Mais, tout redevenant calme et silencieux, elles se rassemblèrent de nouveau autour de Lorenzo et le regardèrent agir, pleines d'anxiété. Voyant qu'il n'était rien résulté de sa découverte, il descendit. Quand il retira sa main, la sainte trembla et les spectatrices furent reprises d'effroi, croyant que la statue s'animait. Les idées de Lorenzo étaient toutes différentes. Il comprit aisément que le bruit qu'il avait entendu venait de ce qu'il avait lâché une chaîne qui attachait la statue au piédestal. Il essaya de nouveau de la remuer et il y réussit sans de grands efforts. Il la posa à terre et remarqua que ce piédestal était creux et que l'entrée en était fermée par une lourde grille de fer. La curiosité devint si générale que les sœurs oublièrent leur danger réel et imaginaire. Lorenzo se mit à soulever la grille, et les nonnes l'aidèrent de toutes leurs forces. Ils en vinrent un bout sans beaucoup de peine. Alors il s'offrit à eux un abîme profond, dont l'œil cherchait en vain de percer l'épaisse obscurité. Les rayons de la lampe étaient trop faibles pour être d'un grand secours. On ne distinguait qu'une suite de degrés rudes et informes qui s'enfonçaient dans le gouffre béant et se perdaient bientôt dans les ténèbres. On n'entendait plus de gémissements, mais personne ne doutait qu'ils ne fussent sortis de cette fosse. En se penchant dessus, Lorenzo s'imagina distinguer quelque chose qui brillait dans l'ombre. Il regarda attentivement et fut convaincu qu'il voyait une petite lueur qui se montrait et disparaissait tour à tour. Il le dit aux nonnes et elles la virent aussi. Mais lorsqu'il annonça son intention de descendre dans le trou, elles se réunirent pour s'opposer à cette résolution. Toutes leurs remontrances ne purent la changer. Pas une d'elles n'eut le courage de l'accompagner et ne pouvait songer à les priver de la lampe. Seul donc, et dans les ténèbres, il se disposa à tenter l'aventure, tandis que les nonnes se contentaient de dire des prières pour son succès et sa sûreté. Les marches étaient si étroites et si raboteuses que les descendre c'était comme marcher sur la pente d'un précipice. L'obscurité qui l'environnait ôtait toute sûreté à son pied. Il était obligé d'avancer avec une grande précaution, de peur de manquer les marches et de tomber dans le gouffre. Il en fut bien près plusieurs fois. Cependant, il atteignit la terre ferme plutôt qu'il ne s'y attendait. Il reconnut que les ténèbres épaisses et les brouillards impénétrables qui régnaient dans le souterrain le lui avaient fait croire beaucoup plus profond qu'il ne se trouvait l'être. Il parvint sans accident au bas de l'escalier, s'arrêta et chercha la lueur qui avait attiré son attention. Il la chercha en vain. Tout était sombre. Il écouta si l'on gémissait, mais son oreille ne distingua d'autre son que le murmure lointain des nonnes qui au-dessus répétaient leur Ave Maria. Il resta incertain de quel côté diriger ses pas, À tout événement, il résolut d'aller en avant. Il le fit, mais lentement, craignant de s'éloigner de l'objet de ses recherches au lieu de s'en approcher. Les gémissements annonçaient une personne souffrante, ou du moins affligée, et il espérait pouvoir la soulager. Enfin, des sons plaintifs et peu éloignés se firent entendre. Joyeux, il tourna ses pas de leur côté. À mesure qu'il avançait, ils devinrent plus distincts. Et bientôt, il revit la lueur que lui avait cachée jusqu'alors l'angle d'un mur peu élevé. Elle venait d'une petite lampe posée sur un tas de pierres et dont les rayons languissants et lugubres servaient plutôt à montrer qu'à dissiper les horreurs d'un cachot droit et sombre, construit dans une partie du souterrain. Elle faisait voir aussi plusieurs autres enfoncements semblables, mais dont la profondeur se perdait dans l'obscurité. La lumière jouait froidement sur les murailles humides, dont la surface moisie la reflétait à peine. Une brume épaisse et malsaine, enveloppée d'un nuage, la voûte du cachot. En avançant, Lorenzo sentit un froid perçant circuler dans ses veines, mais les plaintes fréquentes l'engagèrent à poursuivre. Il se tourna de leur côté, et à la faible lueur de la lampe, il vit dans un coin de ce séjour odieux une créature étendue sur un lit de paille, et si misérable, si amaigrie, si pâle, qu'il ne sut si c'était une femme. Elle était à moitié nue. Ses longs cheveux épars tombaient en désordre sur sa figure et la cachaient presque entièrement. Un bras décharné pendait négligemment sur une couverture en lambeaux qui entourait ses membres convulsés et grelottants. L'autre était replié autour d'un petit paquet qu'elle serrait contre son sein. Un grand rosaire était près d'elle, en face un crucifix, sur lequel elle tenait fixés ses yeux creux, et, à son côté, un panier et une petite cruche de terre. Lorenzo s'arrêta. Il était pétrifié d'horreur. Il regardait cette misérable créature avec répugnance et pitié. Il trembla à ce spectacle. Il sentit le cœur lui manquer. Ses forces l'abandonnèrent et ses membres furent incapables de soutenir le poids de son corps. Il fut obligé de s'appuyer contre le petit mur qui était près de lui, sans pouvoir avancer ni parler à cette infortunée. Elle jeta les yeux vers l'escalier. Le mur cachait Lorenzo et elle ne le vit point.
« Personne ne vient, »
murmura-t-elle enfin. Sa voix était creuse et râlait. Elle soupira amèrement.
« Personne ne vient, » répéta-t-elle. « Non, on m'a oublié. On ne viendra plus. »
Elle s'arrêta un instant, puis elle continua tristement.
« 2 jours, 2 longs jours, pas de nourriture et pas d'espoir, pas de consolation. Insensé, comment puis-je désirer de prolonger une vie si misérable ?»
Elle se tut, elle grelotta et ramena la couverture sur ses épaules nues. Elle regardait le paquet qu'elle tenait contre son sein, elle se pencha dessus et le baisa. Puis elle détourna brusquement la tête et frissonna de dégoût.
Il était si beau. Il aurait été si charmant, si semblable à lui. Je l'ai perdu pour jamais. Comme il a changé en peu de jours. Je ne le reconnaîtrai pas moi-même.
Lorenzo, en écoutant ces tristes accents, se sentit encore plus péniblement affecté. Le premier aspect d'une telle infortune avait porté à son cœur un coup douloureux. Mais, remis de cette impression, il s'avança vers la captive. Elle entendit ses pas, et poussant un cri de joie, elle laissa tomber le rosaire.
« Oui, oui, oui » s'écria-t-elle, « quelqu'un vient !»
Elle essaya de se lever, mais elle n'en eut pas la force. Elle retomba sur son lit de paille, et Lorenzo entendit un bruit de chaîne pesante. Se soulevant de terre et s'appuyant sur ses mains, elle regardait avidement l'étranger.
« Grand Dieu, n'est-ce pas une illusion? Un homme? Parbleu, qui êtes-vous? Qui vous amène? Venez-vous me sauver, me rendre à la liberté, à la vie, à la lumière? Oh, parlez, parlez vite, ne me laissez pas concevoir une espérance dont la perte me tuera. »
« Calmez-vous, répondit Lorenzo, d'une voix douce et compatissante. La cruelle abbesse, dont vous vous plaignez, a déjà subi la peine de ses crimes. Vous n'avez plus rien à craindre d'elle. Dans quelques minutes, vous allez être rendu à la liberté et aux embrassements de vos parents, dont vous avez été séparé. Vous pouvez compter sur ma protection. Donnez-moi la main et n'ayez pas peur. Laissez-moi vous conduire en un lieu où vous puissiez recevoir les soins qu'exige votre état de faiblesse. »
Oh oui, oui, dit la prisonnière avec un cri de joie. Il y a donc un Dieu juste. Oh bonheur, je vais respirer l'air pur et revoir la clarté resplendissante du soleil. Je vais avec vous, étranger, mais il faut que ceci vienne avec moi,
ajouta-t-elle en désignant le petit paquet qu'elle tenait toujours serré contre sa poitrine.
Je ne puis m'en séparer, je veux l'emporter. Il prouvera au monde combien sont terribles ces demeures que l'on nomme si faussement religieuses. »
Comme Lorenzo se baissait, la lueur de la lampe frappa en plein sur son visage.
« Dieu tout-puissant » s'écria-t-elle. « Est-ce possible ? Cet air, ces traits, oh, oui, c'est... »
Elle étendit les bras pour les jeter autour de lui, mais son corps trop frêle fut hors d'état de soutenir les émotions qui agitaient son cœur. Elle s'évanouit et retomba sur le lit de paille. Lorenzo fut surpris de cette dernière exclamation. Il crut avoir déjà entendu des accents pareils à ceux de cette voix creuse, mais où ? Il vit que, dans une situation si dangereuse, les secours immédiats de la médecine étaient absolument nécessaires, et il se hâta de l'emporter du cachot. Peu d'instants après, Don Ramirez, aussi bien que le duc, parurent suivis de gens portant des torches. Ils l'avaient cherché dans les caveaux pour lui apprendre que la foule était dispersée et l'émeute entièrement finie. Lorenzo raconta brièvement son aventure dans le souterrain et expliqua combien l'inconnu avait besoin des secours de la médecine. Il pria le duc de se charger d'elle ainsi que des nonnes et des pensionnaires. « Quant à moi, dit-il, d'autres soins demandent mon attention. Tandis qu'avec la moitié des archers, vous conduirez ces dames à leurs demeures respectives, je désire que vous me laissiez l'autre. Je vais examiner ce souterrain et visiter les recoins les plus secrets du sépulcre. Je n'aurai de repos que lorsque je serai certain que la malheureuse victime que voici est la seule que la superstition ait emprisonnée sous ses voûtes. » Le duc applaudit à son intention. Don Ramirez offrit de l'assister dans cette perquisition et sa proposition fut acceptée avec reconnaissance. Les nonnes, ayant fait leurs remerciements à Lorenzo, se confièrent aux soins de son oncle qui les emmena hors des caveaux. Virginie demanda que l'inconnu lui fût donné en garde et promit de faire savoir à Lorenzo quand elle serait suffisamment rétablie pour recevoir sa visite. À vrai dire, elle fit cette promesse plutôt pour elle-même que pour Lorenzo ou la captive. Elle n'avait pas vu sa courtoisie, sa douceur, son intrépidité sans une vive émotion. Elle désirait ardemment de conserver des relations avec lui. Et au sentiment de pitié que lui inspirait la prisonnière s'ajoutait l'espoir que les soins qu'elle prenait de cet infortuné la relèveraient d'un cran dans l'estime de son sauveur. Elle n'avait pas lieu de se mettre en peine à ce sujet. La bonté dont elle avait fait preuve et le tendre intérêt qu'elle avait montré à la malade lui avaient conquis une place éminente dans les bonnes grâces de Lorenzo. Il la considérait comme un ange descendu du ciel au secours de l'innocence affligée, et son cœur n'aurait pu résister à tant d'attraits, s'il n'avait pas été retenu par le souvenir d'Antonia. La prisonnière délivrée était toujours privée de l'usage de ses sens et ne donnait d'autres signes de vie que quelques gémissements. On la portait sur une espèce de litière. Virginie, qui était constamment auprès, craignait qu'épuisée par une longue abstinence et ébranlée par ce passage subit des fers et des ténèbres à la liberté et à la lumière, elle ne put soutenir ce choc. Lorenzo et Don Ramirez étaient restés dans les caveaux. Après avoir délibéré sur ce qu'ils devaient faire, il fut arrêté que, pour ne pas perdre de temps, les archers se diviseraient en deux corps. Qu'avec l'un, Don Ramirez examinerait le souterrain, tandis que Lorenzo, avec l'autre, pénétrerait au fond des caveaux. Cet arrangement fait, et sa suite s'étant munie de torches, Don Ramirez s'avança vers le souterrain. Il en avait déjà descendu quelques marches quand il entendit des gens qui accouraient de l'intérieur du sépulcre. Étonné, il remonta précipitamment. « Entendez-vous des pas ? dit Lorenzo. Allons au-devant, c'est de ce côté qu'ils paraissent venir. »
En ce moment, un cri perçant lui fit hâter le pas.
« au secours, pour l'amour de Dieu !»
criait une voix dont l'accent mélodieux pénétra d'effroi le cœur de Lorenzo.
Il vola vers le cri avec la rapidité de l'éclair et fut suivi par Don Ramirez avec une vitesse égale.